Quand je me suis dit à un moment donné que la guerre devenait mondiale, avec l'entrée en guerre des États-Unis et la résistance de la Russie, je me dis, alors moi, bien entendu, je peux me planquer, je peux survivre. Et j'ai vu la contradiction qu'il y a entre vivre et survivre, parce que je me suis dit, si je veux vraiment vivre, il faut que je fasse comme les autres jeunes dans tous les pays qui vont se sacrifier pour se donner pour une lutte, pour la liberté, pour tout ça. Et je ne peux pas laisser dans la platitude. Autrement dit, j'ai vu que vivre n'est pas survivre. Vivre, c'est risquer la mort.
Edgar Morin, que l'on vient d'entendre à nouveau ici dans le doc de Momoko Seto en 2016, y évoque longuement ses actions de résistant. Bonjour et bienvenue dans cette 23e visite de la saison 9 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, c'est donc une visite à 4 hommes et 3 femmes, toutes figures incontournables de la résistance durant la guerre. Nous débutons donc par Edgar Morin, né David Salomon Naoum, mort il y a un mois, fin mai, à 104 ans. En 40, les examens universitaires sont annulés. Edgar Morin se replie sur Toulouse et s'engage.
J'entre évidemment dans la résistance. Je vais à Lyon, puis je reviens à Toulouse où je crée la région pour mon mouvement de résistance. Mon pseudonyme d'Edmond qui était grillé. Et j'ai décidé de m'appeler Manin. Manin, c'était un personnage manine, et un héros de l'espoir de Malraux, et en même temps un révolutionnaire vénitien, héros de l'indépendance contre les Autrichiens. Bon, ça me plaisait pas mal. Mais j'arrive à Toulouse pour inaugurer mon pseudonyme. Je dis à la camarade qui m'attend à la gare, je dis à partir de maman, je m'appelle Manin. Elle me présente le camarade Morin. Et comme pendant 2 jours, j'étais devenu Morin, j'ai dit, allez, va, je reste Morin. Et puis, c'est un pur hasard qui fait que je suis devenu Morin.
Il remonte assez vite à Paris, où, avec Violette, il loge dans un petit hôtel situé non loin des exploits d'un certain Benalla, place...
Contrescarpe. Je faisais des transports d'armes, je faisais des transports de documents. Et j'avais loué une chambre qui servait de dépôt rue... du Faubourg Saint-Antoine, où j'avais mes tampons pour faux papiers, des trucs pour vos papiers, une ou deux armes. Enfin, j'avais un petit dépôt qui n'était pas chez moi, comme ça j'étais tout à fait tranquille, si tu veux. Mais un jour, je descends, et je ne sais pas pourquoi je regarde. Et je vois qu'à la fenêtre d'à côté, une bonne femme me regarde. Oh, je me suis dit... Attention, ne revenons pas trop souvent là. Et après, j'apprends que cette bonne femme m'avait dénoncé. Est-ce qu'elle pensait que c'était que j'étais résistant? Est-ce qu'elle pensait que c'était du marche noir? Je sais que la Gestapo est allée et a pris tous ces machins-là. Ouais. Être résistant urbain, c'est être avant tout du gibier. Pour te dire à quel point c'était dangereux, mon ami et adjoint Jean Krasatz, qui en réalité était un Allemand, un antifasciste, je lui ai donné rendez-vous au cimetière Vaugirard, parce que se donner des rendez-vous dans un cimetière, c'est très bien, parce qu'on voit très bien si l'autre est suivi, alors que dans les rues populeuses, on ne peut pas. Et comme je ne vois pas mon ami Jean au cimetière Vaugirard, je ne m'inquiète pas du tout, c'est-à-dire je ne me doute pas un instant que la Gestapo est déjà... dans sa chambre à l'hôtel Toulier et attendu une souricière. Un peu plus tard, je suis avec Violette, je dis, tiens, je vais aller vous trouver Jean. Et comme je vois que sa clé n'est pas accrochée à son truc, je me dis, ben, je vais monter. Il était au deuxième étage. Et alors, Violette reste en bas. Et alors, ce qui s'est passé d'extraordinaire, c'est que je monte le premier étage. Et puis là, je sens une sorte de fatigue, de lassitude. Pourtant, j'ai 20 ans, hein, j'ai 21 ans. Je m'arrête, je me dis non. Je redescends tranquillement. Je mets un petit mot, mon cher Jean. Rendez-vous demain, à tel endroit, à la Sorbonne, etc. Et je ne me rends pas compte que la tenancière de l'hôtel, c'est un petit hôtel, elle me regarde, que la regarde épouvantée, elle n'oserait me dire. Elle n'ose pas me dire que les teutons sont dans la chambre. Le sort de Jean, d'ailleurs, c'est affreux parce qu'il avait une fausse identité française avec un nom un peu flamand, vendeur de je ne sais pas quoi. Mais sous la torture qui a été atroce, il s'est mis à répondre en allemand Et dès qu'ils ont découvert qu'il était allemand, ils l'ont abattu dans la cave.
Le RN sont les héritiers des Waffen-SS qui ont assassiné mon grand-père.
Vous faites référence à ceux qui ont fondé le Front National avec Jean-Marie Le Pen.
Voilà.
Suzette Bloch était l'invitée de la matinale de France Inter le 23 juin dernier.
Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu reniement de ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen. Donc, il faut être clair. Marc Bloch était antifasciste. Alors que maintenant, le RN, l'extrême droite, a toujours utilisé, en se revêtant de ses habits de n'importe qui, pour pouvoir justifier une idéologie raciste et antidémocratique. Marc Bloch était un démocrate, était un homme de gauche, d'ailleurs.
Sarah Knafo a indiqué qu'elle prendrait.
Bon, elle essaye de faire du buzz, mais c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un parti qui est tombé de réhabiliter Pétain. Mmh.
Rappelons que Marc Bloch, comme beaucoup, fut torturé par des Français à la solde de l'occupant. L'historienne Alia Aglan contextualise cette arrestation sur un pont lyonnais dans cet extrait de Histoire et civilisation pour Toria Voce le 16 juin dernier.
Il a été arrêté dans un vaste coup de filet de ces bandes qui travaillent pour le service des Allemands. C'est une sorte de partage des tâches. Eux, ils ont des cartes de police allemande, ce qui fait qu'ils sont totalement impunis, donc ils peuvent entrer partout. Ils ont des mouchards qu'ils payent grassement. Et ce qui se passe, cette arrestation sur le pont de la Boucle se situe dans une série de malversations où ces malfrats sont en train de rançonner des Juifs qui se sont réfugiés à Lyon. On fait des affaires, on traque et on donne. Et on partage les bénéfices. Et donc, Marc Bloch tombe dans ces filets-là, en mars 44. Moi, je pense pas qu'il est tombé par trahison, parce qu'en fait, il n'y a pas une seule raison. Ils sont venus le chercher, c'est vrai, là où il avait son bureau, clandestin, mais c'est une suite, en fait, d'arrestations, de saisies, de gens qui parlent sous la torture. Ils saisissent aussi beaucoup de documents. Les Allemands rémunèrent beaucoup, donc ils font parler les gens, il y a de la délation. Donc il est arrêté, il est interné à Montluc, il est torturé. Là, on a des témoignages, visiblement, il a été très torturé. Montluc est devenu une prison allemande depuis le début de 43, mais on torture à l'ancienne école de santé. Et il y a effectivement dans ces locaux dits de la Gestapo, on dit la Gestapo, mais en fait c'est le SD, hein, c'est le Sicherheitsdienst, c'est-à-dire les services de sécurité. Et là, oui, il va être torturé, et notamment par quelqu'un de la bande à gueule tordue qui, au moment de l'instruction de son procès, a dit qu'il l'avait passé à la baignoire.
Le grand universitaire patriotisme Marc Bloch était de Marc Bloch, il est ardent, il est incandescent, de la France,
il est sacrificiel, mais il est républicain. Lui, effectivement, le patriotisme est une vertu et l'histoire est une science, écrit-il dans un article sur Fustel de Coulanges. Ce qui veut dire qu'il peut dire du même ton, avec des conséquences héroïques, que jamais il ne pourra déraciner la patrie de son cœur, qu'il ne vit bien que sous le ciel de France, qu'il a fait sien tout le passé de la France, ça c'est quelque chose qui est intraitable chez lui, mais l'histoire c'est autre chose. L'amour de la patrie, oui, mille fois oui. L'amour de l'histoire, oui, mille fois oui, mais l'un n'engage pas l'autre. Et pour dénouer cela, ce qu'il trouve à briser, c'est ce qu'il appelle l'idole. L'idole de la tribu des historiens, c'est-à-dire les origines. C'est une fois de plus les élites qu'il met en critique pour dire, voilà, ça c'est notre problème que de croire vrai cette équivalence entre un commencement et un commandement.
C'est la fameuse phrase que je ne sais pas par cœur, mais qui dit toute personne qui ne vibre pas à l'évocation du sacre de Clovis et à celle de la fête de la Fédération, celui-là ne comprend pas la France. Ce que l'extrême droite en fait, c'est la théorie d'un continuisme de l'identité nationale française, de Clovis à la Révolution, une révolution qui fait sienne l'héritage national construit par l'ancien régime monarchique, etc. Bon, en réalité, ces deux phrases sont dans un paragraphe extrêmement précis. En fait, ce qu'il a dans la vision, c'est la réussite éblouissante du Troisième Reich à organiser à Nuremberg ces immenses manifestations patriotiques, nazies, dont tout le monde se souvient des images, et que la République, de son côté, n'ait pas été capable de le faire, alors qu'elle aurait dû le faire en fabriquant du commun émotionnel, civique, qui n'est pas, j'y insiste personnellement, de l'histoire, mais qui est un appel à l'histoire pour fabriquer de la conscience démocratique partagée. C'est ça que veut dire Bloch. Et donc, le paragraphe dans lequel ces deux phrases sont prises, c'est un paragraphe dans lequel il appelle à la constitution d'une modalité de mobilisation de l'histoire par le politique pour créer du commun civique contre le fascisme. Et c'est très clairement un appel à l'antifascisme. Et donc l'utilisation, d'abord par Jean-Marie Le Pen, puis par Marine Le Pen, de cette phrase est particulièrement vicieuse.
En fait, ce qu'il rappelle, c'est que une des grandes réussites pour lui du Front populaire, c'est d'avoir réussi à susciter cette émotion collective. Dans le Front populaire, le vrai, celui des foules, non des politiciens, il revivait quelque chose de l'atmosphère du Champ de Mars au grand soleil du 14 juillet 1790.
Alors après l'évocation d'Edgar Morin et de Marc Bloch, je tenais à ce que l'on entende et rende visite à d'autres personnalités moins dans l'actualité. Tout d'abord, une institutrice et résistante qui fit tout pour sauver son mari, Raymond, Lucie Aubrac, que l'on entend ici dans les années 80 ou 90, repris par Philippe Collin dans son podcast de 2025 « Face à l'histoire, les résistantes ».
Munie d'une fausse identité, je me suis présentée bien habillée. J'ai plutôt pas l'allure d'habitude de quelqu'un, je me farde pas et tout, et j'étais vraiment bien habillée, bien fardée, avec des bijoux. Et puis j'étais jeune, j'avais 30 ans. Je me suis amenée à l'école de santé militaire rue Berthelot et j'ai demandé à voir la personne qui s'occupait des arrestations de Caluire. Il y a eu immédiatement un branle-bas général et on m'a montée au premier étage dans un grand bureau sur lequel il y avait écrit Gauleiter, le chef, et je suis rentrée dans ce bureau où je suis tombée en face de ce personnage qui était Barbie.
Klaus Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise, tristement célèbre pour sa cruauté et son extrême violence. Lucie Aubrac, enceinte de quelques mois, invente alors un stratagème pour provoquer une ultime rencontre avec son mari. Elle raconte que l'homme emprisonné a fait d'elle une fille mère et qu'il faut absolument qu'il signe un contrat de mariage avant son exécution.
J'avais l'air assez convaincante, ou Barbie était peut-être dans un jour de fatigue, ou peu. Moi, ce que je crois plutôt, c'est que c'est son côté sadique qui a joué. Ce personnage était tellement content de voir devant lui une grande jeune femme jeune qui était bouleversée à l'idée que son ami était en prison, qu'il a joué là-dessus. Et puis finalement, il m'a dit « sortira pas, c'est un terroriste ». Je démarrais une deuxième grossesse et j'ai eu un choc. Et sans le vouloir, c'était pas une histoire de comédie, je me suis effondrée et j'ai pleuré.
Barbie y croit et consent à ce que le couple signe les papiers au siège de la Gestapo. C'est là que Lucie Aubrac monte une opération pour intercepter le camion transportant Raymond et 14 autres prisonniers le 21 octobre 1943.
Qu'il fallait d'abord, c'était arrêter ce camion. Nous avions donc dans la voiture où j'étais un très bon tireur qui était muni d'une mitraillette avec un silencieux. Ça ne fait pas de bruit du tout quand ça tire. Il a ajusté d'une manière très précise le chauffeur et les gardiens qui étaient à côté. Ils ont été tués. Le camion s'est arrêté assez tranquillement. La bagarre a été très courte. Raymond a voulu sauter plus vite que les autres. Il était muni d'une gabardine et l'un de mes copains lui a tiré dessus avec une balle qui lui est rentrée dans la joue, qui est sortie en 7 tons sous l'oreille, l'autre dans l'épaule. On a eu le temps de détourner le tir en vitesse et il a été sain et sauf.
C'est une évasion époustouflante. Elle restera pourtant, aux yeux de Lucie Aubrac, un fait divers dans la masse des actions héroïques accomplies à travers ces années de résistance. Mais tous ne pourront pas être sauvés. Jean Moulin, le chef des résistants, mourra en détention sous les coups de la Gestapo.
Thank you.
Extrait de la magnifique musique de Philippe Sard pour le film de Claude Berry, en 97, Lucie Aubrac avec Carole Bouquet et Daniel Auteuil.
C'est par ce petit chemin que Jean Zay gravit le Puy du Diable dans la montagne bourbonnaise le 20 juin 1944. Trois miliciens, des hommes de main de Joseph Darnan l'accompagnent. Il criera « Vive la France !» avant d'être exécuté dans ce bois. Son corps est jeté dans un profond ravin. Il ne sera retrouvé que 2 ans plus tard et identifié seulement en 1948 lorsque l'un de ses assassins est retrouvé en Italie où il avait pris la fuite.
Durant toute l'année 1944, depuis le mois de janvier jusqu'à l'été 1944, la milice va extraire des prisons ou des résidences surveillées un certain nombre de responsables politiques qui lui semblent, comme Jean Zay, incarner tout ce qu'il déteste. Ils les enlèvent et ils partent les exécuter au coin d'un bois et faire disparaître leur corps pour même effacer la trace de ce que ces personnes pouvaient représenter. Jean Zay représente tout ce que Vichy déteste et déteste de manière viscérale. C'est donc quelqu'un issu d'élite de confession juive, c'est quelqu'un qui est radical socialiste, c'est quelqu'un qui s'est engagé tôt en faveur de la politique et d'une politique active au sein du Front Populaire, c'est quelqu'un qui est très attaché à la laïcité, donc Ligue de l'Enseignement, Ligue des Droits de l'Homme, et finalement il concentre sur lui toutes les valeurs de la République.
À Jean Zay, on doit notamment l'ENA, le CNRS, les bibliobus, le Palais de la Découverte, et le Festival de Cannes. Mais Jean Zay, c'est surtout le ministre de l'Éducation nationale sous le Front Populaire entre 1936 et 1939.
Il a eu une œuvre, je dirais, qui était importante, de développement de la scolarité. Il a fait passer la scolarité à 13 à 14 ans. Et également, une œuvre importante, on va dire aussi, pour, je dirais, l'innovation pédagogique, l'ouverture de l'école aussi sur la culture, etc. Enfin voilà, c'était vraiment aussi un des inventeurs de l'école contemporaine.
Après avoir combattu les nazis, le 21 juin 1940, Jean Zay et 25 autres parlementaires embarquent pour le Maroc. Mais le régime de Vichy les fait arrêter. Jean Zay est jugé pour désertion devant l'ennemi à Clermont-Ferrand. Incarcéré à la maison d'arrêt de Rion le 7 janvier 1941, il passera 3 ans et demi entre ses murs, visité tous les jours par sa femme et ses 2 filles.
Figure politique incontournable des années 30, l'Orléanais Jean Zay fait partie des martyrs de la République au même titre que Jean Moulin ou du conservateur Georges Mandel. C'était un reportage de France 3 Centre Val-de-Loire du 26 mai 2015 au moment de la panthéonisation de Jean Zay aux côtés de Geneviève de Gaulle-Antonioz, Germaine Tillion et Pierre Brossolette. Ce dernier, interrogé sous la torture et sous les toits du 72 de l'avenue Foch, où officiait un certain René Bousquet, Brossolette ne révéla jamais que son nom avant de sauter dans le vide de la cour. Autre portrait remarquable, celui d'une femme qui s'est illustrée pour sauver les trésors du Louvre. Petit montage entre Affaires sensibles sur France Inter de 2026, un reportage de Télé Lyon Métropole en 2009 à l'occasion d'une expo au Musée de la Résistance à Lyon et 2 sujets de France Culture en 2023 et 2024, dont sa lettre de mission.
Sans elle, nous ne pourrions pas admirer certains Renoir, Cézanne ou Vermeer dans les musées français. Voici l'histoire de Rose Vallant. Nous sommes dans la France occupée des années 1940 et les nazis confisquent tout. Les moyens de transport, les matières premières, mais aussi les œuvres d'art. L'ambition d'Hitler, créer un lieu plus illustre encore que le Louvre dans sa ville natale. Dotées de listes très précises, les troupes du Führer pillent un à un les musées et les collectionneurs parisiens, dont de grandes familles juives.
C'est une forme de résistance qui est civile, qui pourrait même être qualifiée d'administrative, qui est tout à fait inattendue, mais qui est majeure parce que grâce à elle, on n'ajoutera pas l'injustice de la spoliation au drame de l'extermination. Donc à sa manière, elle a contribué à apporter un peu d'humanité dans ce terrible conflit mondial.
Le jeu de paume tient lieu de vastes zones de triage. Trop occupés à répertorier, étiqueter et prévoir l'expédition en Allemagne des œuvres spoliées, Hermann Göring et ses hommes remarquent à peine la présence discrète d'une femme. Rose Vallant, 42 ans, est alors simple attachée de conservation bénévole au musée. Mais son sang-froid, son courage et son amour de l'art vont tout changer.
Hitler s'est efforcé, en arrivant en France à ce moment-là, de proclamer que les biens des collections nationales, les biens des collections privées, devaient être sous son contrôle. C'est absolument effarant de voir de quelle manière était prévue la rafle dans les collections nationales. Ces confiscations vidaient presque la totalité des musées français.
Hitler ambitionne de réécrire l'ensemble de l'histoire de l'art. Rembrandt, Franz Hals, Van Ruysdael, ce classicisme incarne à ses yeux le génie germanique. Et il compte bien en faire le trésor du musée pharaonique qu'il se fait édifier à Linz. Mais il y aura des jours meilleurs. C'est la raison pour laquelle la mission que je vous ai confiée au jeu de paume est d'une extrême importance, Rose. Aujourd'hui, plus encore qu'hier. Continuez à emmagasiner le maximum de renseignements. Rendez-vous indispensable aux Allemands pour l'intendance du musée. Faites mine de leur obéir, sans état d'âme. Il faut que vous restiez dans la place. Coûte que coûte.
Là, on a ouvert le registre à une de ces notes où elle informe Jacques Jaugère, donc son directeur, de l'arrivée du maréchal Göring au Jeu de Paume. J'ai l'honneur de vous faire savoir que le musée du Jeu de Paume a reçu hier, vendredi 15 mai, la visite du maréchal Göring, arrivé à 15h15. Mais il est reparti environ trois quarts d'heure après. Donc tout est consigné dans ce registre.
Elle circule dans les bâtiments, écoute aux portes, fouille dans les poubelles pour récupérer des brouillons et les recopie méthodiquement. Elle tentera même de retenir un convoi en gare au péril de sa vie.
Un train chargé des plus grands chefs-d'œuvre de l'art français a été chargé le 2 août et a été retenu à Paris jusqu'au 28 août. Et je me demande si les gens qui n'ont pas vécu l'occupation peuvent se rendre compte de ce que cela représente, de difficultés, de roueries, d'essais et quelquefois de désillusions. Il est certain que nous n'aurions peut-être pas pu aller plus loin si les Américains, à ce moment-là, n'étaient pas arrivés à Aulnay où le train est tombé entre leurs mains. Et ce qui a été providentiel, et je dois dire presque miraculeux, n'est-ce pas, dans cette affaire, c'est que celui qui était chargé dans l'armée Leclerc du commando désigné pour retenir et pour confisquer ce train, celui-ci s'appelait Rosenberg, et il avait dans le train des chefs-d'œuvre toute une partie de sa collection qui avait été confisquée par les Allemands. Or, il n'en savait rien.
Au total, Rose Vallant contribuera à récupérer 60 000 œuvres sur les 100 000 pillées après la libération.
Et Rose Vallant coulera des jours heureux jusqu'en 1980 avec sa compagne universitaire anglaise, Henri Krasucki.
Résistant ou pas résistant, tous ceux qui étaient là étaient traités de la même façon. J'ai vu tant d'hommes, et ailleurs, il y a eu tant de femmes, qui représentent des spécimens admirable d'humanité, que je ne suis pas revenu avec une vision désespérée ni pessimiste, réaliste naturellement. J'ai vu le pire, mais j'ai vu le meilleur. Et par conséquent, je n'ai pas perdu confiance dans l'homme. Mais je sais à quel prix il faut combattre pour la liberté, pour la dignité, pour contre les injustices et pour où que ce soit, rien ne se compare à Auschwitz et à ces camps-là, mais où que ce soit qu'arrivent des événements aussi tragiques et aussi injustes, on ne reste pas indifférent et qu'on ne tolère pas que se produisent des choses qui sont indignes de l'humanité, tout simplement.
Henri Krasucki, résistant communiste au sein des FPT Moy, comme Manouchian, arrêté par des Français, fut déporté à Auschwitz 2 mois après son père, qui, lui, ne revint jamais de l'horreur des camps. C'est avec la note d'espoir d'un déporté polonais de naissance que nous allons presque clore cette 22e visite de la saison 9 du Panthéon des Cousus sur Alpa, rediffusion et podcast à venir, mais nous ne quittons pas sans musique et sans la voix d'Anna Marley. Et plutôt que vous passer l'indémodable et excellent chant des partisans, j'ai préféré nous réserver la poignante complainte du partisan dont les paroles sont signées Emmanuel Dastier de la Vigerie, résistant de la première heure à Londres, qui a la double qualité d'être aristocrate et sympathisant communiste. Comme quoi, bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, le courage n'étant jamais une vaine qualité, commençons par résister à la chaleur et à la moiteur du monde.
Les bombes volantes, les bombes incendiaires, le quartier général de Gaulle qui était en somme notre quartier général, les soldats qui venaient, qui partaient, les aviateurs, c'était une atmosphère tellement spéciale, tellement stimulante, qu'on ne pouvait pas faire autrement que ou chanter, ou crier, ou marcher, ou se sacrifier.
Il vous arrivait à la BBC de siffler vos chansons au lieu de les chanter. Pour quelle raison ?
J'ai sifflé le refrain du chant des partisans et on a découvert que c'était justement l'air qui traversait le brouillage ennemi. Alors mon sifflet est devenu presque à ce moment-là indispensable.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi il a su. Il est mort sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre.